Salut à vous chers auditeurs, c'est l'heure de l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Aujourd'hui je reçois Eric, salut à toi Eric.
Salut à toutes et à tous.
Et Olivier, salut à toi Olivier.
Content d'être invité Marco.
Dans cette émission Coup de tête, on va revenir sur la dernière journée de championnat de Ligue 1 qui a vu la victoire de Saint-Étienne face au Merlu Lorienté. On reviendra essentiellement donc sur cette rencontre avec Olivier et Eric. On passera des bons morceaux musicaux comme on a l'habitude. Je rappelle que l'émission est en partenariat avec le site Envers et Contre Tous sur le net. On va parler un petit peu une interview qu'Olivier nous a sortie cette semaine du président Romeillet. Donc on passera ça plus en fin de rencontre. Hein, on va rester donc non pas 90 minutes mais 55 minutes ensemble pour cette émission et on va partir tout de suite pour la présentation de cette rencontre entre Saint-Étienne et Lorient.
Ouais, une semaine verte, tu me mets pas de jingle des fois, non? Pas de jingle.
Bah non, pas de jingle cette fois-ci.
Pardon, ok, pas de problème. J'attendais.
Ouais, je me sens.
Si, une toute petite semaine verte, très très rapide, puisque on a quand même en chiffres deux, trois petites choses cette semaine, et notamment que Ruffy a fêté son 300e match de Ligue 1, et puis faut le souligner vu qu'il n'a toujours pas pris de but depuis quelques matchs maintenant. On a aussi eu le plaisir de voir le retour de Robert Berić. C'est la première fois que je suis content du retour d'un Robert. Hein, c'est vrai que d'habitude le retour d'un Robert c'est pas super, mais Robert Berić qui revient et ça nous fait plaisir. Et puis Amouma aussi qui est de retour, donc ça c'est plutôt bien. Dans cette semaine, eh bien il fallait aussi sortir les mouchoirs parce que il y a 3 ans jour pour jour, eh bien c'était la finale de la Coupe de la Ligue, remporté par les Verts face à Rennes, face au même Antonetti qui a également perdu ce week-end. Donc que des bons souvenirs, il y a eu pas mal de choses sur internet. On se rappelle pas seulement de Glasgow cette année, on se rappelle aussi de cette belle finale de Coupe de la Ligue. Alors tout ça nous a amené sur le match, il restait 4 matchs, et sur cette rencontre où Saint-Étienne accueillait Lorient, les Lorientais qui avaient joué en milieu de semaine. Alors voilà la composition d'équipe, et puis je vais vous laisser Eric et Marc nous dire ce qui s'est passé pendant cette rencontre. Ruffy évidemment dans les buts, sur les côtés en défense, Assoué Koto d'un côté, Kevin Théophile Catherine de l'autre, Bayal Sal et Loïc Perrin dans l'axe. Au milieu de terrain, j'ai l'habitude de le dire, c'est du grand classique depuis maintenant quelques années, puisque Clément était associé dans un triangle avec Papy Lemoine et Renaud Coad. Et puis en attaque, la même composition que la semaine dernière, Tanan côté droit, Kevin Monet-Paquet à gauche et Nolan Roux dans l'axe pour le plus grand bonheur, pour ton plus grand bonheur Eric, Nolan
tout,
Roux.
Tout à fait.
Ce n'est pas qu'une roue de secours.
Joli.
Et le racisme anti-roux, ça suffit.
Absolument. Donc nous y étions près de 30 000 en ce dimanche après-midi frisqué pour pousser nos verts à la victoire face à notre ancienne bête noire lorientaise qui, rappelons-le, a joué dans la semaine en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Les Merlus sont en jambes et combinent plutôt bien en début de rencontre, mais l'essentiel des occasions de la première période est à mettre à l'actif des Stéphanois. À la 11e minute tout d'abord, Tanan fait un numéro côté gauche, puis centre pour Roux, dont la tête passe à côté. 3 minutes plus tard, suite à une combinaison entre Coad et Roux, Monet-Paquet hérite de la balle, il reprend instantanément, mais bute sur le portier lorienté. À la demi-heure de jeu, Tanan obtient un coup franc qu'il tire lui-même, le ballon est détourné en corner par la défense lorientaise. Sur le corner frappé par Coad, Monet-Paquet reprend de la tête à côté. À la 33e, Tanan côté gauche arme une lourde frappe de loin qui passe à côté. À la 40e, Coad donne à Tanan, qui prend à nouveau sa chance de loin, sa frappe est captée par Lecomte. Il faut attendre la 42e minute de jeu pour assister finalement à la première occasion lorientaise. Sur un contre côté gauche, le ballon parvient à Jeannot dans la surface de réparation. L'attaquant lorienté pivote et au moment de reprendre, Assoué Koto lui subtilise la balle in extremis et dégage en corner. Sur le corner, Lotoa qui a remplacé Touré à la 35e place une tête à côté. Voilà, c'en est fini pour cette première mi-temps. On retiendra un jeu collectif orienté bien huilé, mais Ruffier n'a pas eu un seul arrêt à faire. Les principales offensives stéphanoises ont été initiées par Tanane, mais ne se sont pas avérées très dangereuses. C'est donc sur ce score nul et vierge de 0-0 que la pause est atteinte.
Ouais, au cours de cette première mi-temps, en tout cas, elle a eu l'inconvénient de ne pas nous avoir réchauffé, parce que tu parlais de ce qui faisait frisquer, mais c'est vrai que moi, je me suis gelé en tribune sud ce dimanche après-midi, même si on était quand même presque 30 000, comme tu l'as souligné, Eric. C'était dur de se réchauffer, et le début de la deuxième mi-temps, eh ben, ça commence quand même sur les chapeaux de roue pour les Lorientais, puisque c'est Mukanjo qui s'illustre suite à une passe lobée. Il arrive à frapper et son tir passe à droite du but de Ruffier. Ça, c'était à la 46e minute de jeu. Les Stéphanois vont essayer de réagir, notamment par Panane, une première fois à la 50e minute de jeu. Et puis, on va dire, la grosse occasion du début de cette seconde période, c'est à la 54e minute, suite à un centre de Lemoine. C'est le coup de tête, comme on les aime dans notre mission, de Bayal Sal, qui passe légèrement à côté du but de Lecomte. Sinon, pour les coups de tête, il y a Roux qui tentera un autre coup de tête, mais elle sera trop décroisée et c'était un coup de tête à ras de terre. Et on tient à souligner aussi la rentrée d'Amouma, hein, qui change quand même la donne. J'en ai pas parlé pour cette seconde période, mais Amouma remplace Kevin Monet-Paquet. Et il va s'illustrer, lui, à la 58e minute de jeu avec un tir de plus de 20 mètres, mais qui sera capté par le portier Lorienté. Roux va montrer toute sa vivacité au cours de cette deuxième mi-temps, notamment à la 61e minute de jeu. Il sera un peu esselé au centre, il va se dévier un petit peu sur la droite et il tentera un centre en retrait, mais il n'y aura personne. Arrive le moment, un moment assez important dans cette seconde période, c'est la 67e minute de jeu. C'est Sal qui va sauver un centre en retrait des Lorientais, de Mukanjo. Et sur la contre-attaque, Sainte va se créer une belle occasion. Il faut un sauvetage in extremis des défenseurs merlus à ce moment-là. On sent que les Stéphanois sont assez incisifs, comme ces derniers temps en fin de rencontre. On sent plus de dynamisme à ce moment-là pour nos Verts, et ça va payer suite à la 68e minute. Déjà, Tanane va encore s'illustrer, mais ça sera encore capté par le portier Lorienté. Et puis intervient la 75e minute de jeu avec un débordement de notre cher Amouma. Amouma qui va déborder côté droit et qui va déposer un joli centre en retrait pour notre avant-centre Roux en pivot, marque le premier but de cette rencontre à la 76e minute de jeu. Là, ça change la donne. Et puis, on est habitué, au cours du dernier quart d'heure, de voir les Verts marquer le but victorieux. Les Lorientais sont obligés de réagir, notamment par l'intermédiaire de Traoré à la 88e minute de jeu, mais ça sera capté par Ruffier. Et on peut souligner aussi le cafouillage dans la surface stéphanoise à la 90e minute de jeu, puis Ruffier qui va sauver une frappe de Jeannot, il me semble, à la 91e minute, avant que Ruffier devienne le passeur décisif presque, suite à un long...
Il est bien aidé par le défenseur. Hein,
ouais, suite à un long dégagement, c'est Guerrero qui passe un petit peu au travers et qui offre à Roux un duel face à Lecomte, et Roux emporte ce duel. Ça fait 2-0 à la 92e minute de jeu. Une cinquième victoire sans encaisser de but. On n'avait jamais connu ça à la SSE. Bah, comme quoi, c'est une première. Même si on a eu froid, même si on s'est quand même un petit peu embêté dimanche après-midi, Saint-Étienne repart avec les 3 points pour cette 35e journée de championnat de Ligue 1.
Ouais, je vais te laisser présenter un titre musical, Marco. Et puis juste après, on va commencer par parler de Nolan Roux quand même. Et puis on parlera aussi de ces, voilà, des possibilités de l'AS Saint-Etienne au classement.
Ok, ça sera Louise Attaque avec son dernier album. C'est un peu de patience.
De patience, comme l'eau coule et se faufile, toutes les absences un jour ou l'autre se défilent. Un peu de courage quand les gens meurent ou se détournent, toutes les pages un jour ou l'autre se tournent. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. Un peu de courage quand les gens meurent ou se détourne, toutes les pages un jour ou l'autre se tourne. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre.
Gaëtan Roussel avec Louise Attaque et son dernier album Anomalie. Et ce titre, plein de patience. Voilà, oui, si j'ai choisi ce titre, hein, c'était parce que à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard, il faut être patient, il faut attendre les 20 dernières minutes pour voir ses favoris marquer au moins un but victorieux. Là, c'était deux, mais tant mieux pour nous.
T'as raison, il en faut de la patience. Alors à partir de maintenant, messieurs, je voulais vous entendre sur deux trois petits sujets. Comme d'habitude, on va revenir sur Nolan Roux. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, notre roue de secours qui a encore bien servi aujourd'hui. Alors justement, hein, dans le même style que le titre de l'équipe, vous avez vu sur Grenier, les caves se rebiffent là, puisqu'il était un peu, il était mis sur la touche et puis c'est lui qui a fait pencher la balance du bon côté pour Lyon. Eh bien dans le même style, je voudrais Nolan Roux. Hein. Alors, je vous le rappelle quand même, on a dit qu'il n'était pas suffisamment bon dans l'axe. On a recruté Robert Berić. Hein. Ensuite, on a recruté Söderlund parce qu'encore une fois, on estimait que Nolan Roux n'était pas assez costaud dans l'axe. On l'a fait jouer sur un côté. On ne l'a pas fait jouer aussi, très souvent. Il a été remplaçant. Donc là encore, est-ce que... c'est la concurrence qui a fait que Nolan Roux il a ce stade aujourd'hui, ou est-ce que tout simplement Christophe Galtier s'est trompé et que s'il l'avait mis toute la saison avant-centre, on n'en serait peut-être pas à lutter jusqu'au dernier moment pour ces fameuses places européennes?
Il était même question de son départ au cours du mercato. C'est lui qui, lors d'une réunion, a insisté pour rester. Et puis, parce qu'il n'avait pas l'habitude de partir au bout d'un an, et il s'est accroché. Et voilà, il a bien fait, puisqu'effectivement, en ce moment, c'est l'homme fort de cette fin de saison. Et là, il vient d'inscrire son premier doublé sous le maillot vert. Il en est à 9 comme son numéro. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant. Il a marqué la 75e, la semaine dernière à Bastia, la 75e également. Et il y a 15 jours, le but de Mopé, c'était aussi la 75e. Donc il y a des coïncidences un peu comme ça. Mais oui, Roux, c'est l'homme fort de cette fin de saison. Et puis il y a une armada offensive qui peut être intéressante avec le retour d'Amouma, Beric qui est programmé pour Toulouse. Voilà, ça peut faire des choses très intéressantes en cette fin de saison.
Le football fonctionne par cycle, hein. Ça a toujours été, que ce soit général pour une équipe ou que ce soit pour des individus comme les joueurs. D'autant plus lorsqu'on est attaquant et qu'on est avant-centre. Il a fait des matchs, il était complètement transparent, Nolan Roux. Il a fait des matchs où il n'avait pas eu du tout de réussite, hein. Je me souviens en début de championnat, il y a eu des buts qui lui ont été refusés aussi. Et puis moi j'avais bien aimé en fin de compte sa fougue lorsqu'il était un petit peu excentré sur le côté droit. Je me souviens des matchs de coupe où il a été loin d'être ridicule. Donc on a eu un petit peu tous les états de Nolan Roux et c'est vrai que là ça paye. Ça paye aussi parce que il est bien servi. La semaine dernière, c'était un débordement de Théophile Catherine sur le côté droit avec un très bel appel de notre latéral droit à ce moment-là. Là c'est Amouma qui déborde et qui centre. Voilà, c'est vrai qu'il faut être présent, il faut être là. Normalement, ce genre de choses, ces centres, ça doit pas arrêter pendant 90 minutes. Là, ça arrive pas souvent, on va dire. Ça arrive 4 fois sur la rencontre. Et au moins, ça paye au moins une fois. Donc, bravo à lui.
Bravo à lui. Et puis, peut-être qu'il y a une petite phase d'adaptation aussi. Hein, on n'a pas parlé, mais il y a des joueurs qui mettent un petit peu de temps avant de s'intégrer dans un collectif nouveau, dans un système aussi, parce que jouer à Saint-Etienne, ça commence à être le même système, à être bien huilé du côté de Christophe Galtier. Alors justement, parlons-en de ce jeu, ou plutôt de ce non-jeu. On a pu remarquer face à Lorient le manque d'allant côté stéphanois. Je voulais vous demander si ça allait suffire pour les 3 dernières rencontres qui s'annoncent quand même importantes. Je veux parler de Toulouse la semaine prochaine. Je veux parler de Nice et je veux parler de Lille, mais parlons d'abord de Toulouse. Est-ce qu'avec ce style de jeu, ce niveau de jeu, est-ce que les Stéphanois peuvent espérer quelque chose face à Toulouse?
Mais pourquoi ça s'arrêterait? Puisque les 5 dernières rencontres, ça a fonctionné. Et sachant que Lorient, alors face à 3, moi je m'attendais à avoir du jeu, j'ai pas eu de jeu parce que les Troyens sont restés retranchés dans leurs 30 derniers mètres. Là on a eu une équipe complètement différente, hein. C'était Lorient qui est une équipe joueuse, qui montre beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse, mais stérile dans l'approche de la surface de réparation. Mais c'est deux styles complètement différents et résultat, Saint-Etienne a pris 6 points. Donc moi, face à Toulouse, autant j'étais inquiet parce que Toulouse, c'est vrai qu'ils ont ils ont leur vie à sauver sur ces 3 dernières rencontres. Mais Saint-Etienne sait s'adapter à cette différentes stratégies. Et pourquoi pas compter sur une 6e victoire la semaine prochaine.
Alors moi je suis pas d'accord avec toi, je vais te dire pourquoi, parce que si on prend là les 2 ou 3 matchs dont tu as parlé, au match aller on avait déjà gagné et on n'avait pas pris de but forcément non plus, hein. On avait fait une série de 5 matchs et contre les mêmes équipes. Donc finalement c'est pas une surprise de gagner contre Bastia, de gagner contre Troyes, de gagner contre Lorient. Pour moi ça me surprend pas, et surtout que c'est des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Toulouse, Nice et Lille, eux, ils auront des choses à jouer. Ils vont pas venir de la même manière. On a vu aujourd'hui Lorient, ils étaient en mode entraînement, franchement.
Hein. Et puis
la plupart du temps. Donc tu vas dans mon sens.
Je vais dans ton sens parce que si je me souviens bien, les 3 clubs que tu viens d'annoncer, c'était 3 défaites au cours de la première partie de championnat. On a perdu à Lille, on a perdu contre Nice à domicile et on a perdu le premier match à Toulouse qu'on n'aurait jamais dû perdre.
Exactement. Et puis aussi, il y a autre chose, c'est-à-dire que je te donne la parole, Eric, après. Quand tu es habitué à attendre l'opportunité, ok, t'es solide, mais admettons qu'on prenne un but. Ça peut arriver contre Nice. Ça peut arriver, non? Surtout à Nice. Mais le problème, c'est quand t'es pas habitué à mettre du rythme dans un match, à te porter vers l'avant, avec nos latéraux qui franchement mettent pas ne poussent pas l'adversaire dans ses derniers retranchements, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien quand tu l'as pas fait pendant 2 mois, tu vas pas te mettre à le faire au cours d'un match quand t'es mis en difficulté, quand t'es mis sous pression. Je vois mal les Verts faire comme Lyon et revenir dans un match, renverser la tendance avec l'état d'esprit actuel. Eric.
Non, mais c'est pas maintenant qu'on va changer la façon de jouer. Hein, donc,
non, je dis pas qu'il faut changer, mais c'est inquiétant quand même.
Ah bah c'est inquiétant, ouais. Ça fait pas mal de temps que c'est inquiétant. C'est sûr que c'est pas flamboyant, mais c'est efficace. Donc on est encore là. On a un système de jeu qui est identique, un dispositif qui est immuable. Donc là, il reste 3 matchs à jouer. On a toutes les cartes en main. L'an passé, on avait pris 14 points sur 15 en fin de saison. Il y a 2 ans, c'était 12. Donc là, pourquoi pas réitérer ce genre de prestation. On en est à 5 victoires d'affilée en encaissant 0 but. Donc on est très costaud défensivement, on doit être la 4e défense je crois. Alors après c'est sûr qu'au niveau du jeu on se régale pas, mais on a des armes offensives qui peuvent nous permettre de très bien terminer cette saison.
Bon bah tu es confiant et comme d'habitude on va parler maintenant du classement. Parce que vous avez vu un peu cette semaine, alors les Niçois eux ils veulent pas forcément de la 3e place. Parce que vous savez que ça, c'est une place un petit peu difficile parce qu'elle est qualificative pour un tour préliminaire de Champions League qui est hyper contraignant. Il y a même deux tours avant de pouvoir intégrer le parcours de Ligue des Champions. Et si, même si Galtier ne l'a pas dit en conférence d'après-match, il y a un peu de ça aussi pour les Stéphanois. C'est-à-dire que ce qui arrange tout le monde, c'est la 4e place qui, elle, est automatiquement qualificative pour l'Europa League. Alors que la 5e, tu passes par des tours de barrage, ça ampute les vacances des joueurs et de l'entraîneur de 1 mois. Et c'est ça le problème. Est-ce que justement la 4e place, tout le monde la veut. Est-ce que vous y croyez, vous? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que vous êtes locaux comme est-ce que vous êtes fou comme Bruno Genesio qui voit les Verts être plus que lutter pour la 3e place et la 2e place, ou est-ce que vous êtes plutôt en bon gestionnaire
lucide?
Logiquement, les 2 et 3e places seront pour Lyon et Monaco. Après, je pense qu'on va se disputer la 4e place avec Nice. Ça devrait ressembler à mon simulateur d'il y a quelques temps. Hein. C'était premier Paris, 2e Lyon, 3e Monaco, 4e Nice qui nous aurait devancé à la différence de but. Donc nous, 5e. Donc voilà, tout va se jouer sur le fameux Nice ASS de l'avant-dernière journée pour moi.
Moi, j'espère que le suspense ira jusqu'au bout parce qu'il y a un Saint-Étienne-Lille qui peut être une belle finale. Donc je croise les doigts pour qu'on aille vraiment jusqu'au bout, qu'il y ait du suspense pour jouer, voir le plus haut possible, tout simplement, hein, que ça soit la 3e. La 2e, bon, c'est sûr, ça risque d'être difficile, mais pourquoi pas, on est vraiment pas trop loin du second. Tout est jouable encore mathématiquement. Donc, ouais, je croise les doigts, même si c'est vrai que des équipes comme Nice et Lyon produisent un football beaucoup plus attrayant.
Nos limites.
On verra ça. En tout cas, il reste encore 3 matchs maintenant.
En tout cas, on peut parler d'espoir à ce moment-là. C'est le titre de la reine qui est de retour, le Pidgey Hervé, avec ce titre... Community of Hope. Vous écoutez l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot. À l'instant, c'était la reine de la scène pop rock alternative de la perfide Albion, Pete Gervais, avec ce titre The Community of Hope, extrait de l'album The Hope 6 Demolition Project, voilà, qui est sorti il y a 2 semaines de ça.
Alors, à ce moment de l'émission, on va préciser une chose qu'on a oublié de dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas suivi ce week-end, il faut dire quand même que le Paris, qui a gagné la Coupe de la Ligue, offre une 5e place qualificative en Europa League. C'est important dans les débats qu'on a eus tout à l'heure et qu'on aura encore tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous propose qu'on diffuse l'interview de Roland Romeyer qui s'est adressé donc aux lecteurs de la tribune Le Progrès. Nous étions présents pour enregistrer questions et réponses, et c'est vrai qu'il s'est livré avec pas mal de franchise. Et puis une de ses qualités, c'est la simplicité, c'est d'être avenant à ce président originaire de la Haute-Loire. Donc on vous propose tout de suite une rencontre avec Roland Romeyer, enregistrée cette semaine.
Bonsoir. Merci de votre visite déjà. Alors ma question, moi, est toute bête, c'est toute simple, c'est sur le futur de l'ASS. On a vu cette année une très belle équipe de jeunes pousses stéphanois contre les Parisiens en Coupe de France, en Coupe de la Ligue,
ouais, t'as fait, oui.
Qui ont joué avec leurs armes.
Oui.
Actuellement, les U19 et les U17 sont premiers de leur championnat.
Ouais, tout à fait, je vois au coup suivi.
Les jeunes pousses stéphanoises ont de la qualité. Par contre, on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile à ces jeunes d'intégrer l'équipe 1, parce que bon, il y a des joueurs d'expérimentés devant eux, on fait venir d'autres joueurs plus jeunes d'autres équipes. Je voulais avoir votre sentiment sur la formation à la Saint-Etienne, qui est, on va dire, une marque de fabrique de la SSE jusqu'à présent. Donc voilà, c'était juste savoir ce que vous pensez de la formation stéphanoise et de ces jeunes-là.
Vous savez, effectivement, la formation stéphanoise fait partie de l'ADN du club. Hein. C'est les joueurs qu'on a connus lors de l'épopée 76, il y en a beaucoup qui sortaient du centre, voilà, de l'école de foot de la Saint-Etienne, parce qu'il faut pas oublier que Roger Rocher, un grand président, avec entouré de garonnaires et de gens compétents, avait des idées d'avant-garde un peu, hein, parce que c'est la Saint-Etienne qui a créé au départ les centres de formation, qui a organisé les déplacements en avion, qui allait superviser les équipes aussi. Donc, effectivement, moi je tiens beaucoup au centre de formation et encore plus maintenant qu'avant, parce que maintenant le football est devenu un football business et nous on n'est pas un club, si vous voulez, richissime. On n'est pas, je vais pas parler du Paris qui est hors jeu. Après, il y a des clubs qui sont dans des grandes villes. Nous, Saint-Etienne est une ville qui souffre un peu et on n'a pas des subventions, de la ville. On n'a pas de subventions. La ville aide un petit peu l'association sportive, mais pas le club professionnel, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, nous, on n'a pas les moyens de recruter des joueurs à coups de millions. Et il faut donc former des joueurs. Le problème du football français actuellement, c'est que quand on attaque une saison, on a une perte structurelle de 8 à 10 millions. On a un trou de 8 à 10 millions, c'est-à-dire que votre budget, vous ne pouvez pas l'équilibrer. Les recettes étant inférieures aux dépenses, il faut impérativement vendre des joueurs. Voilà. Actuellement, c'est comme ça. Donc, il y a des joueurs qui ont été formés à Saint-Etienne, effectivement, comme vous le disiez. Il y a un bon centre de formation, donc on a vu partir des Kurt, on a vu partir des Guy Lavogui, enfin, il y a des bons joueurs qui sont partis de la Saint-Etienne. Après, l'objectif que nous avons fixé, Bernard Caillazo et moi, maintenant, compte tenu de l'histoire du club, compte tenu aussi des moyens qu'on met quand même au niveau sportif, nous, il faut qu'on soit chaque année européen et finir au moins dans les 5 premiers. C'est l'objectif qui est fixé. D'ailleurs, c'est là-dessus que je m'appuie en ce qui concerne les primes. Parce que moi, j'ai mis en place un salary cap avec du variable, avec des primes. Donc, c'est sur ces place que je m'appuie. C'est-à-dire que si on file les dixièmes, les gars, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas de prime. Quand vous jouez les cinq premiers, déjà, il faut des joueurs un peu confirmés aussi. C'est compliqué de mettre, d'intégrer des joueurs, des jeunes joueurs. Et puis après, c'est un choix de l'entraîneur. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je ne mets pas du tout mon nez là-dedans. Après, il y a des constats. Il y a des constats parce que je regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Et que ce soit dans ma vie en général, ma vie professionnelle, je regardais toujours ce qui se faisait ailleurs. Puis je dis, bon, tiens, ça c'est bien, donc je pique ce qui est bien. Hein, que ce soit au niveau professionnel et tout. Bon, je faisais comme ça. Bien là, je regarde et puis je regarde Lyon. Quand Lyon était en Champions League, dites-moi combien il y a de joueurs formés au centre de formation de Lyon qui jouaient. Zéro. Parce que les gamins, bon, ils avaient leur centre de formation qui était performant aussi à l'époque, mais les gamins, ils ne les gardaient pas, les pieds, tout ça, ils les vendaient. Parce qu'ils allaient acheter Juninho, ils allaient acheter des grands joueurs, ils avaient les moyens. Les jours où ils n'ont plus les moyens, là, il a fallu se rabattre sur le centre de formation. Et cette année, en début de saison, tout le monde, les médias, tous les constats qu'ils faisaient, quand ils ont vu qu'ils étaient obligés de mettre tous les jeunes, et puis surtout pas au compte-goutte, ils en ont mis 4, 5, 6 du centre de formation, avec des résultats qui étaient, bien sûr, qui étaient négatifs. Hein. Tout le monde disait, Lyon, ça va être dur cette année, tout ça. Finalement, Lyon, ils sont en troisième actuellement, parce qu'après, les gamins, à force de jouer ensemble et tout, ben, ils sont aguerris. Voilà. Donc moi, je suis pour, effectivement, qu'on intègre, mais un peu au compte-goutte quand même, qu'on intègre des jeunes du centre de formation, parce que je vous dis, on n'a pas les moyens de s'acheter des grands joueurs, donc autant les prendre du centre de formation. Et puis après, je vous dis, c'est le staff qui voit. Alors, des moments, un entraîneur préfère prendre un joueur confirmé qu'un jeune, parce que le jeune va vous coûter peut-être quelques erreurs au début. On l'a vu par exemple au Monaco quand Paulomat il fait le pénalty.
Bonsoir président.
Bonsoir.
Moi je voudrais que vous vous enleviez du rôle de président et comment vous jugez actuellement depuis quelques mois la façon de jouer, la manière d'aborder les matchs. Comme ce matin disait Nolan Roux, les gens viennent voir du spectacle, actuellement il n'y en a pas. Et ça me fait peur pour l'avenir parce que qui, en jouant actuellement comme ça, qui va pouvoir, quel joueur voudra venir à Saint-Etienne en regardant les matchs? C'est sûr, s'il regarde le classement, il va dire bah, 4e, 5e, c'est pas mal. Mais moi, c'est ce qui me fait peur, c'est que depuis quelques temps, bon, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, et on dirait que ça n'évolue pas. Alors, c'est vrai que c'est la fin de championnat, peut-être. Il y a 51 matchs de jouer. C'est vrai que c'est beaucoup. Ça, on le conçoit. Mais on dit que c'est quand même des pros et qu'on voudrait peut-être voir autre chose.
Non, c'est une question intéressante parce que je l'ai entendu par plusieurs supporters. Et puis, je vois aussi la qualité du jeu qu'on développe. Oui, c'est compliqué. J'aimerais qu'on gagne et qu'on joue bien, effectivement. Ça, c'est clair. Mais... pour le moment, on a quand même eu beaucoup de blessés, beaucoup, beaucoup de blessés, des blessés importants, notamment Béric et Théophile Catherine, début de la saison, parce qu'on avait mis beaucoup d'argent sur eux, voilà, nos deux joueurs sur lesquels on comptait le plus, blessés. Après, il y a eu des joueurs comme Amouma. On n'a pas bien pu y compter dessus. Donc, effectivement, on a une ligne d'attaque un peu compliquée pour s'exprimer, puisque on le constate tous, on n'a pas de joueur qui ait marqué 10 buts. Hein, un attaquant qui aurait marqué au moins 10 buts, c'est un peu juste. Et le milieu de terrain, c'est pareil. On a eu des soucis avec un Coad blessé. Enfin, on n'a eu pas beaucoup de soucis. Cette année, effectivement, comme vous disiez, on a fait 51 matchs. Et simplement, Galtier a mis en place une formule en défense qui est bonne, puisqu'on est meilleure quatrième défense. Et ça fait 3 matchs, je crois, on ne prend pas de but. 4 matchs. 4 matchs, hein, 4 matchs, on ne prend pas de but.
Donc, moi, de mon côté, c'est sur l'image aussi. Et si je me reconnais dans le club, dans ce club, c'est parce qu'il y a des valeurs de solidarité, des valeurs. Ils portent aussi des valeurs d'intégration. Le côté populaire aussi. Que faites-vous au quotidien pour perpétuer ces valeurs, entretenir ça, qui sont bien présentes dans les COP notamment?
Mais qu'est-ce que je fais d'abord? Moi, si vous voulez, j'étais en pension chez les frères, très jeune. On m'a inculqué des valeurs que. Voilà, que. J'essaie de perpétuer au centre de formation, c'est-à-dire que si vous venez là-bas, vous verrez déjà que tous les jeunes viennent vous serrer la main. Les pros aussi, hein, enfin tous les gens, quand vous venez au centre de formation, bien, on vient vous dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Enfin, c'est, tout ça, c'est important. Et puis après, si je vous dis, si on peut... La Saint-Étienne est le club qui ouvre le plus ses portes aux supporters, notamment pour les entraînements. Et parce que je veux que les supporters qui, je dis bien, qui nous suivent, et si la Saint-Étienne est ce qu'elle est actuellement, c'est aussi grâce à tous ces supporters. Il y en a dans toute la France. Moi, je vais souvent à des assemblées générales avec Dominique Rocheteau, avec Georges Beretta, des assemblées générales de sections de supporters, et je vois 3 générations. Je vois le grand-père, je vois le père, le petit-fils, là. Tous ces gens, voilà, et qui ont un affectif pour la Saint-Étienne. Pourquoi? Parce que, ben voilà, le père a raconté l'histoire, il était à Kiev ou à Glasgow ou à Eindhoven, et voilà, après le fils a adhéré, et après le petit-fils, pareil. Donc, voilà, pour moi, ça me fait plaisir de voir tous ces gens derrière le club. Voilà, c'est pour ça que moi, je veux aller aussi vers eux, leur renvoyer l'ascenseur. Et quand je suis invité, ben, comme ce soir, ça me fait plaisir d'être avec vous, ou quand je suis invité aux assemblées générales de supporters, en fonction de mon agenda, je vais vers eux. Voilà.
Donc voilà, vous avez entendu, hein, c'était Roland Romeillet, il était avec les lecteurs de la Tribune de Progrès, et ses propos, parfois, hein, c'est pas des journalistes qui posent des questions, eh bien, ils ont réussi à lui faire avouer quelques petites choses, hein, et notamment, Eric, tu ne l'as pas raté, son point de vue sur le milieu de terrain vieillissant de la AS Saint-Étienne. Qu'en penses-tu? Il s'est fait piéger un petit peu là? Parce que je serais joueur, venant de l'entraîneur, bon, on sait que c'est pour asticoter un peu, hein, mais venant du président, c'est pas très bienvenu, non?
Ouais, c'est pas bien méchant, je pense. Après, c'est vrai qu'on a un milieu de terrain qui est vieillissant, comme il l'a dit, mais bon, voilà, ce sont des joueurs sur lesquels on a pu compter toute la saison, hein, qui enchaînent les matchs. Lors du match contre Lorient, Lemoine, qui était pas mal décrié, ben, a eu quand même un sacré abattage une nouvelle fois. Donc, il a perdu quelques ballons en deuxième mi-temps par manque de lucidité, parce qu'il s'est énormément dépensé. Donc, ce sont quand même des joueurs qui sont précieux dans l'entrejeu. Alors après, c'est vrai qu'ils vieillissent un petit peu comme tout le monde, mais voilà, ce sont des joueurs qui ont été très importants au sein de l'effectif, et on leur doit notre bon classement.
Ouais, alors justement, hein, après cette entrevue avec Roland Romeillet, on va passer une autre pause musicale, Marco, et puis on reviendra avec l'agenda, puisqu'il y a un match important qui arrive, et puis des coups de cœur et les coups de tête.
Je vais faire juste une petite parenthèse, page Haute-Loire, hein, généralement dans notre émission, il y a la page Haute-Loire qui est assez qui est importante, mais malheureusement ce week-end, cette semaine, il n'y a pas eu de match en CFA, il n'y a pas eu de match en division d'honneur, juste en division d'honneur régionale. Je rappelle simplement 2 matchs, et une qui est assez surprenante quand même, c'est Espaly, le leader, qui a perdu chez la Lanterne Rouge Massiac, donc en poule A de division d'honneur régionale. Et dans la même poule, Shadrach l'a emporté 3-0 face à la Vallée de l'Autre. Espaly garde toujours, bien sûr, sa place de bon leader et qui a de grandes chances de monter en fin de saison, comme on le souligne depuis plusieurs semaines dans notre émission.
Ben voilà, on passe à notre titre musical, Marco ?
Ouais, pas de souci. Je vais passer The Limanianas, qui sort un nouvel album. Je vous en parle tout de suite après.
Ok. Un soleil a tombé par terre, brûlant comme à la moricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le troisième âge, les obèses et les enfants sages. Sur la plage en ébullition, des glacières de compétition. Une profusion de pastèques. Des filles qui ondulent en chanclettes. Vêtu d'un maillot de panthère, j'ai pris mon allure de croisière. Allongé sous un parasol, je mâche des graines de tournesol. C'est l'heure où le long du rivage, les Allemands sont en nage. Voilà que commence le défilé. Des malabars en bijoutés. Dans l'air flotte un parfum étrange, plutôt de lavande et de beignet. Il est temps d'aller se baigner. 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 Il est temps d'aller se baigner.
The Limanianas, il est temps d'aller se baigner avec ce titre, El Beach. Alors pourquoi ce titre? Eh ben, c'est l'éloge des vacances de Galtier pour cette quatrième place qu'il vante. Hein. On sera plus vite en vacances, voilà.
On pourra rester en vacances.
Oui, exactement. On pourra rester plus longtemps en vacances.
Si on part en vacances tout de suite, on est mal.
Voilà.
Tu le remplaces.
Ce titre des...
Pajot titulaire, déjà. Tous les matchs. Si Marco est entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Pajot titulaire à chaque
le
rencontre.
Shut up. Donc, ouais, The Limanianas, un groupe qui, un peu style des yéyés, un petit peu aussi psyché, qui sort des bons albums ces dernières années et qui tourne dans toute la France. C'est pas un groupe très, très, très connu, mais franchement, ça vaut le détour.
Et les paroles aussi, ça allait en français, s'il vous
en
plaît.
En français, ouais, ça dépend. Mais c'est vrai, c'est souvent français.
On va passer au coup de cœur et au coup de tête. Alors, j'ai vu qu'il y avait de longues listes du côté d'Eric. Je vais tout de suite lui donner la parole. Coup de cœur, on commence par les coups de cœur.
Il va prendre tous nos coups de cœur et coups de tête, c'est pas possible.
Ah, il a préparé ça, ouais. Il était en vacances, sous le soleil corse.
Jingle.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Eh, vas-y Eric.
Allez, premier coup de cœur donc pour les jeunes, les U17 et U19 qui sont en tête de leur championnat. Donc c'est quand même une sacrée performance. Les U17 qui sont encore imposés ce week-end. Donc il y a une belle relève à l'ASS en espérant que certains jeunes auront l'occasion de se montrer en équipe première. Deuxième coup de cœur, bah, vous avez évoqué la Corse, messieurs, donc j'ai particulièrement apprécié l'accueil local, même si les Verts et les supporters stéphanois étaient interdits. Donc j'ai bien aimé l'image que les Corses ont de l'ASS. Ils apprécient fortement le soutien qu'on leur a manifesté à plusieurs reprises, tant par rapport à la situation de Ghislain Printemps, leur ancien entraîneur, qui d'ailleurs n'a cessé de clamer son amour des Verts, que par rapport à ce qui s'est passé avec l'un de leurs supporters. Il y a un profond respect entre les deux clubs.
Ils sont allés recueillir aussi.
Tout à fait,
sur
ce que j'allais dire. Ouais, lorsque je suis allé voir la stèle commémorant le drame de Furiani, les dirigeants stéphanois ont déposé une gerbe comme ils le font à chaque fois qu'ils se rendent à Bastia. Et les dirigeants stéphanois ont aussi rencontré les membres du collectif du 5 mai 92. Donc c'est quand même une démarche qui les honore. Donc ce sont deux clubs qui ont une histoire, une identité forte et puis qui ont eu en commun également une épopée européenne qui a marqué les gens. Donc voilà.
Il y a eu Johnny Rep aussi.
Johnny Rep qui était présent ce week-end.
Excusez-moi, je vais dépeindre un tout petit peu le tableau. Je vais juste mettre de l'ombre au tableau parce que quand même, on peut imaginer, et tu vas peut-être confirmer, que les deux clubs corses se sont peut-être un tout petit peu arrangés cette année pour que le Gazélec l'emporte. Loin de la vérité.
J'ai eu beaucoup d'échos cette semaine, effectivement, d'un arrangement très probable entre les deux clubs, sachant qu'il fallait rendre ce match l'année prochaine. Donc, Bastia battra le Gazélec l'année prochaine.
L'année prochaine, tu joues au loto.
Voilà. Donc, tout cas, voilà, ce coup de cœur pour les Corses. On a réussi le grand chelem cette année contre les Corses. On a battu 4 fois le Gazélec et Bastia en championnat. On a aussi éliminé l'AC Ajaccio. Donc voilà, et puis un dernier coup de cœur, c'est une bonne nouvelle pour les supporters stéphanois qui fera plaisir aussi aux Corses, lui qui les a snobés pendant tant d'années. Donc c'est la démission de Frédéric Thiriez de la LFP. On a eu le droit à un tifo des Magic Fans en ce sens le week-end dernier, hein, Le texte du tifo disait « Désolé pour un arbitrage souvent dépassé, négligeant l'histoire et les drames du passé, préférant l'argent aux petites épopées. Tu auras mis 14 ans pour prendre une décision sensée. » Donc effectivement, au cours de ces deux septennats, il a démontré son incompétence. Il savait de toute façon qu'il n'avait aucune chance d'être réélu. Il avait perdu toute crédibilité, était parfaitement conscient qu'avec l'adoption des nouveaux statuts de la LFP, actant une nouvelle forme de gouvernance, que sa marge de manœuvre serait très réduite. Il y a même les clubs de Ligue 2 qui étaient prêts à organiser un putsch pour le destituer. Donc en démissionnant, il aura tout simplement anticipé son éviction. Donc rappelons qu'il avait succédé à Gérard Bourgoin, le roi du poulet, et lui qui a fait tant de mal à l'ASS, qui avait rendu notre club seul responsable dans l'affaire des faux passeports et qui avait précipité sa chute en Ligue 2. Donc il serait temps d'avoir enfin une personne à la hauteur de cette fonction.
Ce sera Kyo, un certain Kyo, hein, c'est ça?
Oui, alors ça change pas grand-chose, hein, parce que le but de Kyo, là, justement, c'est de aller se rapprocher du modèle anglais et financiariser encore plus le football.
J'ai peur qu'il comprenne encore rien au football, celui-là, mais bon. Coup de cœur, Olivier?
Alors, les coups de cœur de mon côté, très rapidement, c'est ce qu'on vient d'écouter, Romeillet, mais j'ai pas pu vous passer l'extrait. C'est sa sortie sur, vous savez, les clubs de la rive droite du Lignon qui ont été obligés de revenir jouer en district de la Haute-Loire, et ils trouvent ça complètement aberrant. Et le problème, c'est que les clubs en ont toujours les séquelles aujourd'hui. Cette décision a privé de foot plein de gamins, a fait disparaître des clubs, et il est jamais inutile de dire que c'était une mauvaise décision du président du district, monsieur Fournel.
D'accord. Moi, j'ai aimé cette semaine Faïndouno qui a signé à l'Atlantas en Lituanie. Zizou Black. Donc ouais, c'est une bonne nouvelle après son faux départ à Sedan. Il va faire un tour vers Vilnius. Pourquoi pas, hein. Bonne chance à notre Faïndouno, hein, qu'on aime tant à Saint-Étienne. J'ai bien aimé Nanar, il veut de la bière, dans son stade, et je trouve ça sympa. Moi, depuis 92, la bière est interdite dans les stades, et
JPP.
Depuis la canette de Jean-Pierre. Et la simulation de Jean-Pierre, hein, comme voilà. Et depuis ce jour-là, on n'a plus eu de bière dans les stades. Et Nanar, il trouve que c'est pas normal d'en avoir en loge et pas dans les tribunes populaires. Donc il est pas content, il le dit. Donc il m'a fait rire. Donc c'est mon coup de cœur. Et sinon, j'aime aussi le match dont on a relaté les faits en début d'émission. Et il va repasser sur l'équipe 21. Et le fait que l'équipe 21 puisse avoir des matchs de Ligue 1, même si c'est en différé, je trouve ça pas si mal, parce que l'équipe 21, on peut l'avoir, on n'est pas obligé de payer comme Canal+, et Canal+, comme ils ont le monopole et qu'ils font n'importe quoi, moi je trouve que une fois qu'il y a d'autres chaînes qui peuvent diffuser ce spectacle, on va dire. Non, je déconne,
On peut dire.
Ce genre de rencontre, c'est pas plus mal, quoi. Donc, c'est un coup de cœur.
Ils ont vu que 75% des buts des Verts étaient marqués en deuxième mi-temps, donc ils vont diffuser juste le dernier quart d'heure.
Exactement.
Peut-être
qu'ils vont, ils vont fragmenter le.
Tu as vu la connerie quand même. Ils ont quand même commenté en direct d'un bar, là. Pour le coup, il y a de la bière, mais on fait un gros plan sur les deux commentateurs en Champions League. Il y a aucune image, ils n'ont pas les droits, donc ils filment les gars en train de commenter.
Et ça, c'est sûr.
Et ça, sur l'équipe 21.
Ah ouais, d'accord.
Mais qui a regardé ça?
Qui a regardé ça?
Voilà. Allez, coup de tête.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Allez, coup de tête, Eric.
Double coup de tête contre l'UEFA. Je ne sais pas si, messieurs, vous avez cherché à acheter des places pour l'Euro 2016. Hein. Je rappelle qu'on accueillera 4 rencontres à Geoffroy Guichard. Alors qu'il n'y avait aucune difficulté pour se procurer des places pour la Coupe du Monde 98 et la Coupe des Confédérations 2003. Là, depuis le départ, pour avoir des places pour l'Euro 2016, c'est mission impossible. Il a fallu se préinscrire d'abord auprès de l'UEFA de manière à participer à 2 tirages au sort qui, bien sûr, n'ont rien donné. Il y a une plateforme de revente et d'achat des billets qui était installée au mois de mars par l'UEFA. Et là, c'était une vraie mascarade, on pouvait passer des heures sans pouvoir obtenir le moindre sésame. Donc c'est quand même incroyable que les abonnés n'aient pas eu le droit à une priorité d'achat pour au moins une place dans leur stade pendant 2-3 jours, soit-il la moindre des choses, comme ça s'est passé pour la Coupe du Monde 98. Et puis maintenant, donc, pour pouvoir assister aux rencontres à Geoffroy Guichard pour l'Euro, il va falloir recourir au marché noir. Et donc la deuxième chose concernant l'UEFA, c'est que cette semaine, donc, l'UEFA a ordonné la fermeture du Musée des Verts les veilles et jours de match à Geoffroy Guichard, invoquant le contexte actuel des menaces terroristes élevées et l'obligation de durcir le dispositif de sécurité suite aux attentats du 13 novembre. Alors, il faut savoir que le cahier des charges de l'UEFA prévoyait au départ la fermeture du musée pendant toute la durée de la compétition. Alors, quand on sait qu'il y a des milliers d'étrangers qui vont venir au stade, on peut dire qu'il y aura un énorme manque à gagner en raison de cette décision de l'UEFA, à mon sens, absurde et sans fondement.
Ouais, c'est mon même coup de tête, hein. Honte aux décideurs et qui te disent c'est sous l'effet du contexte des attentats. Non, pas du tout. C'est tout ça pour faire du fric et protéger son microcosme, hein. C'est la pure mafia à l'état pur, mais on le sait, hein, le foot est complètement pourri. Et là, on en a l'exemple. C'est aberrant de fermer un musée. Le seul musée qu'on a en France, le musée qui est dédié à notre club foot.
Foot, parce qu'il y a plein de clubs.
C'est aberrant. Aberrant, donc oui, évidemment, on a le même coup de tête. Est-ce que tu en as un autre, Olivier?
Ouais, j'en ai un autre, hein. Vous avez su ça, hein. Un certain Hanouna, à pas confondre avec Hamouma, a exigé des excuses d'un certain Joey Starr dans la semaine. Et moi, je voulais simplement lui dire oui.
Pour avoir giflé
un gars qui en plus fait une émission de sport. Bref, c'est pas ça le truc. Je voudrais juste savoir, et les excuses de Brahim Zaibat, vous savez, celui qui avait chanté un chant anti-stéphanois, on en est où? Monsieur Hanouna.
D'accord. Ouais, oui, Hanouna. Ouais.
À son niveau.
À son niveau, ouais, on part entre là-dedans. On prendrait des baffes à longueur de journée, ce type. Mais bon, allez. On va se quitter. La semaine prochaine, le match est à 17h. C'est la 36e journée de championnat de Ligue 1. Et dans le chaudron, on recevra le TFC. Et on en reparlera la semaine prochaine dans l'émission Coup de tête.
Voilà, bonne semaine à vous, chers auditeurs, et puis allez les verts! Et au revoir, allez les verts!
À très bientôt, n'oubliez jamais, qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les Verts.